L'idiot, deuxième partie, chapitre 9. Vous ne nierez pas sans doute, dit Gabriel Ardalionovitch à Bourdovski, qui, visiblement ahuri, l'écoutait de toutes ses oreilles en fixant sur lui de grands yeux étonnés. Vous ne voudrez pas nier sérieusement que vous ne soyez né juste 2 ans après le mariage légitime de votre honorée mère avec monsieur le secrétaire du collège Bourdovski, votre père. Rien n'est plus facile que d'établir par des faits l'époque de votre naissance. Aussi, ne peut-on voir qu'un jeu de l'imagination de monsieur Keller dans la version si offensante pour votre mère et pour vous qu'il a donné de cet événement. Du reste, son but, en altérant ainsi la vérité, était de rendre votre droit plus évident et de servir vos intérêts. Monsieur Keller dit qu'il vous a au préalable donné connaissance de son article, sans toutefois vous le lire en entier. Assurément, il ne vous a pas lu ce passage. « Je ne le lui ai pas lu, en effet, » interrompit le boxeur. « Mais tous les faits m'avaient été communiqués par un personnage compétent et je... »« Pardon, monsieur Keller, » reprit Gabriel Ardalionovitch, « laissez-moi parler. Je vous assure qu'il sera fait mention de votre article en son lieu. Alors vous pourrez présenter vos explications. Mais pour le moment, il vaut mieux ne pas anticiper. » Tout à fait accidentellement, par l'entremise de ma sœur, Barbara Ardalionovna Pizin, j'ai obtenu de son amie intime, la veuve Viera Alexievna Zubkov, propriétaire, une lettre écrite à cette dame il y a 24 ans par Nicolas Andreïevitch Pavlitchev, alors à l'étranger. Après m'être mise en rapport avec Viera Alexievna, je me suis adressée, sur ses indications, au colonel en retraite Timofei Fedorovitch Vyazovkin, parent éloigné et autrefois grand ami de M. Pavlitchev. Il a remis entre mes mains 2 autres lettres de Nicolas Andreïevitch, écrites également à l'étranger. Ces 3 documents, leurs dates et les faits qu'ils mentionnent, prouvent mathématiquement, de la façon la plus irréfutable, que 18 mois, juste avant votre naissance, monsieur Bourdovski, Nicolas Andreïevitch s'est rendu à l'étranger, où il a passé 3 années consécutives. Votre mère, comme vous le savez, n'a jamais quitté la Russie. Il est trop tard pour que je lise ces lettres maintenant. Je me borne à constater le fait. Mais si vous voulez, monsieur Bourdovski, venir chez moi demain matin avec des témoins, aussi nombreux qu'il vous plaira, et des experts en écriture, je me fais fort de vous prouver l'exactitude absolue de ce que j'avance. Dès lors, naturellement, la question sera tranchée. » Les paroles de Gabriel Ardalionovitch causèrent une sensation profonde. Un mouvement général se produisit dans l'auditoire. Bourdovski lui-même se leva brusquement. « S'il en est ainsi, j'ai été trompé, trompé !» Mais pas par Tchebarov. Il y a longtemps, longtemps. Je ne veux pas d'expert. Je ne veux pas aller chez vous. Je vous crois. Je me désiste. Je refuse les 10 000 roubles. Adieu. » Il prit sa casquette et recula sa chaise pour s'en aller. « Si cela vous est possible, monsieur Bourdovski, restez encore 5 minutes. » lui dit d'un ton aimable Gabriel Ardalionovitch. « J'ai encore à révéler quelques faits de la plus haute importance. » Surtout pour vous, en tout cas très curieux. À mon avis, il est indispensable que vous les connaissiez, et vous-même peut-être n'aurez pas à regretter que cette affaire soit complètement éclaircie. » Bourdovski reprit silencieusement sa place et baissa la tête, comme un homme plongé dans une profonde rêverie. Après lui se rassit de même le neveu de Lebedev, qui s'était levé pour accompagner son ami. Quoique Doktorenko n'eût perdu ni sa présence d'esprit ni son assurance, il paraissait fort désappointé. Hippolyte avait l'air maussade, chagrin et surtout étonné. En ce moment, du reste, il eut un si violent accès de toux que le mouchoir qu'il avait porté à ses lèvres fut couvert de sang. Le boxeur était presque terrifié. « Eh, Antipe ! » cria-t-il d'une voix lamentable. « Je t'avais bien dit l'autre jour, avant-hier, que tu n'étais peut-être pas le fils de Pavlitchev. » Les assistants accueillirent ces mots par des rires à demi étouffés. Deux ou trois s'esclaffèrent bruyamment. « Le fait que vous venez de communiquer, monsieur Keller, est très précieux, » reprit Gabriel Ardalionovitch. « Néanmoins, les données les plus exactes m'autorisent pleinement à affirmer que monsieur Bourdovski, bien que parfaitement instruit, sans doute, de l'époque de sa naissance, ne connaissait pas du tout la circonstance de ce séjour de Pavlitchev à l'étranger, où Nicolas Andreïevitch a passé la plus grande partie de sa vie, ne revenant jamais en Russie que pour un temps très court. En outre, le voyage dont il s'agit est, en soi, un fait trop insignifiant pour que les amis intimes de Pavlitchev s'en souviennent eux-mêmes après un laps de plus de 20 années. À plus forte raison, M. Bourdovski devait-il l'ignorer, lui qui n'était pas encore né alors. Sans doute, comme l'événement l'a prouvé, il n'est pas impossible aujourd'hui de retrouver la preuve de ce déplacement. Mais je dois avouer que mon enquête a été puissamment aidée par le hasard et qu'elle pouvait fort bien ne pas aboutir. Aussi était-il réellement presque impossible à M. Bourdovski et même à Tchebarov de se renseigner, en supposant qu'ils aient eu l'idée de le faire. Mais ils ont pu aussi n'y pas songer. Hippolyte coupa soudain la parole à Gabriel Ardalionovitch. « Permettez, monsieur Ivolgin, » fit-il avec irritation. « À quoi bon tout ce galimatia ? Excusez-moi, l'affaire est maintenant élucidée. Nous consentons à admettre le point principal. Pourquoi donc entrer dans tous ces détails pénibles et blessants ? Vous voulez peut-être vanter l'habileté de vos recherches, faire mousser devant le prince et devant nous vos rares talents d'enquêteur et de détective? Ou bien prétendez-vous excuser Bourdovski, le disculper, en prouvant qu'il s'est engagé par ignorance dans cette affaire? Mais c'est de l'insolence, monsieur. Bourdovski, vous devriez le savoir, n'a besoin ni d'être excusé ni d'être disculpé par vous. C'est une offense pour lui, et sa situation est déjà bien assez délicate, bien assez pénible sans cela. Comment donc ne le comprenez-vous pas ? Assez, monsieur Terentiev, assez, répliqua Gabriel Ardalionovitch. Calmez-vous, ne vous irritez pas. Vous êtes très souffrant à ce qu'il paraît. Je compatis à votre état. En ce cas, si vous voulez, j'ai fini, c'est-à-dire que je serai forcé de résumer brièvement des faits dont, suivant ma conviction, il ne serait pas inutile de donner un exposé complet. » ajouta-t-il en remarquant dans l'auditoire une agitation qui ressemblait à de l'impatience. « Je désire seulement établir, pour l'édification de tous les intéressés, que si Pavlitchev a témoigné tant de bienveillance à votre mère, M. Bourdovski, c'est uniquement parce qu'elle était la sœur d'une jeune fille dont il avait été amoureux dans sa première jeunesse, et qu'il aurait certainement épousée si elle n'était pas morte subitement. J'ai des preuves que cette circonstance absolument certaine n'a laissé qu'un souvenir très faible, ou, pour mieux dire, qu'elle est maintenant tout à fait oubliée. Je pourrais expliquer comment votre mère, quand elle n'avait encore que 10 ans, fut recueillie par M. Pavlitchev, qui pourvut à son éducation et plus tard lui constitua une dot importante. Cette affectueuse sollicitude inquiéta les nombreux collatéraux de Nicolas Andreïevitch. Ils lui supposèrent même l'intention d'épouser sa protégée. Mais en fin de compte, arrivée à l'âge de 20 ans, elle donna sa main à un employé qui remplissait les fonctions d'arpenteur, M. Bourdovski. Je pourrais même prouver péremptoirement que la jeune fille fit un mariage d'inclination. Des faits recueillis par moi, il résulte que votre père, M. Bourdovski, après avoir touché les 15 000 roubles formant la dot de sa femme, quitta le service pour se lancer dans des entreprises commerciales. Comme c'était un homme tout à fait dépourvu d'esprit pratique, il fut trompé, perdit tout ce qu'il avait, puis se mit à boire pour oublier son malheur. Ses excès abrégèrent son existence, et il mourut 8 ans après avoir épousé votre mère. Celle-ci, elle-même le déclare, resta dans la misère et serait morte de faim sans la généreuse assistance de Pavlitchev, qui lui alloua une pension annuelle de 600 roubles. Ensuite, d'innombrables témoignages établissent qu'il s'attacha extrêmement à vous dès votre jeune âge. De ces témoignages, corroborés par l'attestation de votre mère, il ressort que Pavlitchev vous aima surtout parce que, dans votre enfance, vous paraissiez bègue, chétif et malingre. Or, Nicolas Andreïevitch, la chose m'est démontrée, eut toute sa vie une prédilection particulière pour tous les disgraciés de la vie, surtout les enfants. Suivant moi, ce fait est de la plus haute importance dans l'espèce. Enfin, pour achever de mettre en lumière mes talents d'enquêteur, j'ajouterai que j'ai découvert un autre fait capital. En voyant combien Pavlitchev avait d'affection pour vous, c'est grâce à lui que vous êtes entré au gymnase et que vous avez fait vos études sous une surveillance particulière. Ses parents et ses domestiques se persuadèrent peu à peu que vous étiez son fils et que votre père n'avait été qu'un mari trompé. Mais, détail essentiel à noter, cette idée ne s'agrédita au point de devenir une conviction positive et générale que dans les dernières années de la vie de Pavlitchev, alors que tous les collatéraux tremblaient pour l'héritage, que les faits primitifs étaient oubliés et qu'il n'y avait plus moyen de tirer la chose au clair. Vous aussi, sans doute, monsieur Bourdovski, vous avez eu vent de cette conjecture, et vous n'avez pas hésité à l'admettre comme la vérité la plus certaine. Votre mère, dont j'ai eu l'honneur de faire la connaissance, était au courant de tous ces bruits, mais jusqu'à présent elle ignore, je le lui ai caché, que vous, son fils, vous y avez prêté une oreille si complaisante. À Pskov, monsieur Bourdovski, j'ai trouvé votre très honorée mère malade et plongée dans la misère où elle est tombée depuis la mort de Pavlitchev. Elle m'a appris avec des larmes de reconnaissance que vous seul la faites vivre. Elle attend beaucoup de vous dans l'avenir et croit ardemment à vos futurs succès. C'est insupportable à la fin, dit avec impatience le neveu de Lebedev. À quoi bon tout ce roman? C'est révoltant d'inconvenance, ajouta Hippolyte, bondissant de colère. Mais Bourdovski garda le silence et ne fit même aucun mouvement. À quoi bon? Pourquoi? Reprit avec un étonnement moqueur Gabriel Ardalionovitch. Mais d'abord, monsieur Bourdovski est peut-être maintenant tout à fait convaincu que monsieur Pavlitchev l'a aimé par grandeur d'âme et non par devoir paternel. À tout le moins était-il nécessaire d'apprendre ce fait à monsieur Bourdovski, qui tout à l'heure, après la lecture de l'article, a soutenu et approuvé monsieur Keller. Je parle ainsi parce que je vous considère comme un homme noble, monsieur Bourdovski. En second lieu, il est avéré qu'il n'y a eu ici absolument aucune intention de friponnerie, même chez Tchebarov. Je tiens à le déclarer bien haut, car tantôt, dans l'entraînement de la conversation, le prince a laissé entendre que moi aussi je croyais à une tentative de vol. Ici, au contraire, tout le monde a été de bonne foi. Et quoique Tchebarov soit peut-être en effet un grand fripon, dans cette affaire, il apparaît seulement comme un avocat madré. Il a vu là une cause qui pouvait lui rapporter beaucoup d'argent, et ce n'était pas mal calculé. Il avait spéculé d'une part sur le désintéressement du prince et sa respectueuse reconnaissance pour feu Pavlitchev. D'autre part, sur le point de vue chevaleresque sous lequel le prince envisage les obligations d'honneur et de conscience. Quant à M. Bourdovski, étant donné ses principes, on peut même affirmer qu'il s'est engagé dans cette affaire sans aucune pensée d'intérêt personnel. Il s'y est décidé à l'instigation de Tchebarov et de son entourage, qui lui ont représenté cela comme un service à rendre à la vérité, au progrès et à l'humanité. Bref, la conclusion qui se dégage nettement de tous les faits exposés, c'est qu'en dépit de toutes les apparences, M. Bourdovsky est un homme irréprochable. Aussi, le prince peut-il maintenant, de meilleur cœur encore que tantôt, lui offrir son amitié et le secours affectif dont il a parlé tout à l'heure. Chut, Gabriel Ardalionovitch, chut, cria le prince positivement effrayé. Mais il était trop tard. J'ai déjà répété 3 fois, vociféra Bourdovsky irrité, que je ne voulais pas d'argent. Je ne le prendrai pas. Pourquoi ? Je n'en veux pas. Je m'en vais. Il s'éloignait précipitamment de la terrasse lorsque le neveu de Lebedev le saisit par le bras et lui dit quelque chose à voix basse. Bourdovsky revint brusquement sur ses pas. Puis, tirant de sa poche une grande enveloppe revêtue d'une adresse et non cachetée, il la jeta sur une petite table qui se trouvait à côté du prince. « Voilà l'argent. Vous n'avez pas osé. L'argent. » « Ce sont les 250 roubles que vous avez osé lui envoyer comme une aumône par l'entremise de Tchebarov, » expliqua Doktorenko. « Dans l'article, il est dit 50 !» cria Kolia. « Pardon, » dit le prince en s'approchant de Bourdovsky. « Je me suis donné de grands torts envers vous, Bourdovsky, mais je ne vous ai pas envoyé cela comme une aumône, croyez-le bien. Maintenant encore, je suis coupable. » Je vous ai offensé tantôt. » Le prince était fort ému. Il paraissait accablé de fatigue et ne prononçait que des paroles incohérentes. « J'ai parlé de friponnerie, mais ce mot ne s'appliquait pas à vous. Je me suis trompé. J'ai dit que vous étiez, comme moi, malade. Mais vous n'êtes pas comme moi. Vous donnez des leçons, vous soutenez votre mère. J'ai dit que vous aviez déshonoré votre mère, mais vous l'aimez. Elle-même dit, je ne savais pas, Gabriel Ardalionovitch ne m'avait pas tout dit tantôt. Pardonnez-moi, j'ai osé vous offrir 10 000 roubles, mais j'ai eu tort. J'aurais dû faire cela autrement. Et maintenant, il n'y a plus moyen, car vous me méprisez. » « Mais c'est une maison de fous !» cria Elisabeth Prokofievna. « Certainement, c'est une maison de fous !» observa d'un ton roide Aglaé. Mais ces mots se perdirent dans le bruit général. Tout le monde parlait à haute voix, chacun faisait ses commentaires, les uns discutaient, les autres riaient. Ivan Fedorovitch et Panchine étaient au comble de l'indignation. D'un air de dignité blessé, il attendait Elisabeth Prokofievna. Le neveu de Lebedev reprit la parole. « Mais, prince, il faut vous rendre justice. Vous savez tirer parti de votre... disons maladie, pour nous servir d'un mot poli. Mais vous vous êtes pris d'une façon si adroite pour offrir votre amitié et votre argent que maintenant il n'est plus possible à un homme noble de les accepter. C'est ou trop d'ingénuité ou trop de malice. Du reste, vous savez mieux que personne lequel de ces deux termes est applicable ici. « Permettez, messieurs !» cria Gabriel Ardalionovitch, qui venait de vérifier le contenu de l'enveloppe. « Il n'y a ici que 100 roubles, et non 250. Je fais remarquer cela, prince, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. » « Laissez, laissez, » dit le prince en invitant du geste Gabriel Ardalionovitch à se taire. « Non, ne laissez pas, » répliqua vivement le neveu de Lebedev. « Votre « laissez, prince, » est outrageant pour nous. « Nous ne nous cachons pas, nous appelons le grand jour sur nos actes. Oui, il n'y a là que 100 roubles au lieu de 250. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose ?»« Non, ce n'est pas la même chose, » observa d'un air de surprise naïve Gabriel Ardalionovitch. « Ne m'interrompez pas, nous ne sommes pas aussi bêtes que vous le croyez, monsieur l'avocat !» s'écria avec emportement le neveu de Lebedev. Il est clair qu'il y a une différence entre 100 roubles et 250. Mais l'important ici, c'est le principe, c'est l'initiative. Et s'il manque 150 roubles, ce n'est qu'un détail. Le fait à considérer, c'est que Bourdovski n'accepte pas votre aumône, Altesse, et vous la jette au visage. Or, à ce point de vue-là, peu importe qu'il y ait 100 roubles ou 250, Bourdovski a refusé 10 000 roubles, vous l'avez vu. Il n'aurait même pas rapporté 100 roubles s'il était un malhonnête homme. Ces 150 roubles ont été donnés à Tchebarov pour le couvrir de ses frais de déplacement. Moquez-vous plutôt de notre maladresse, de notre inintelligence dans la conduite des affaires. D'ailleurs, vous n'avez rien négligé déjà pour nous ridiculiser. Mais ne vous avisez pas de dire que nous sommes des malhonnêtes gens. Ces 150 roubles, monsieur, nous nous cotiserons tous les quatre pour les rendre au prince. Dussions nous verser la somme rouble par rouble, nous la rembourserons tout entière, avec les intérêts. Bourdovski est pauvre, Bourdovski n'a pas de millions, et Tchebarov, après son voyage, a présenté sa note. Nous comptions gagner. Qui, à sa place, aurait agi autrement ? Comment ? Qui ? S'exclama le prince Tch. Ici, je deviendrai folle ! Cria Elisabeth Prokofievna. Cela me rappelle, remarqua en riant Eugène Pavlovitch, le fameux plaidoyer d'un avocat qui, dernièrement, défendait un individu accusé d'avoir assassiné 6 personnes pour les voler et invoquait la pauvreté comme une excuse en faveur du prévenu. Il est tout naturel, conclut-il, que dans la misère où il était, mon client ait songé à tuer ces 6 personnes. Qui de nous, messieurs, à sa place, n'aurait pas eu la même idée ? Assez ! Fit brusquement Elisabeth Prokofievna, presque tremblante de colère. Il est temps de mettre fin à ce galimatia ! En proie à une surexcitation effrayante, elle rejeta sa tête en arrière, et son regard flamboyant, plein de menaces et de défis hautains, enveloppa toute la société, où, sans doute, en ce moment, elle ne distinguait plus les amis des ennemis. Après s'être longtemps contenue, elle éprouvait un besoin irrésistible de passer maintenant sa colère sur quelqu'un. Ceux qui connaissaient Elisabeth Prokofievna comprirent tout de suite qu'il se produisait en effet quelque chose de particulier. « Elle a de ces crises !» disait le lendemain Ivan Fedorovitch au prince Tch. Mais il est fort rare qu'elle soit aussi violente que celle d'hier. Cela lui arrive peut-être une fois en 3 ans. Assez, Ivan Fedorovitch, laissez-moi ! S'écria Elisabeth Prokofievna. Pourquoi m'offrez-vous maintenant votre bras ? Vous n'avez pas su tantôt m'arracher d'ici. Vous êtes mari, vous êtes père de famille. Votre devoir était de m'emmener en me tirant par l'oreille, si dans ma sottise je refusais de vous obéir et de m'en aller. Vous auriez dû au moins penser à vos filles. Mais à présent, nous trouverons notre chemin sans vous. Voilà de la honte pour toute une année. Attendez, je veux encore remercier le prince. Merci, prince, pour le plaisir que tu nous as procuré. Ça a été une distraction pour moi que d'entendre cette jeunesse. C'est une bassesse, une bassesse. C'est un chaos, un scandale. On ne voit pas cela en rêve. Mais est-il possible qu'il y ait beaucoup de pareils gens ? Tais-toi, Aglaé. Tais-toi, Alexandra. Ce n'est pas votre affaire. Ne tournez pas ainsi autour de moi, Eugène Pavlitch. Vous m'excédez. Ainsi, mon cher, tu vas jusqu'à leur demander pardon. Ces mots s'adressaient au prince. Pardonnez-moi, dit-il, d'avoir osé vous offrir une fortune. Et toi, fanfaron, pourquoi ris-tu ? Ajouta-t-elle, prenant soudain à partie le neveu de Lebedev. Nous refusons les 10 000 roubles, nous ne sollicitons pas, nous exigeons. Comme s'il ne savait pas que dès demain, cet idiot ira chez eux pour leur offrir de nouveau son amitié et son argent. Tu iras, n'est-ce pas ? Tu iras ? Voyons, iras-tu, oui ou non ? J'irai, répondit avec douceur et humilité le prince. Vous l'avez entendu ? Toi aussi, tu comptes là-dessus ? Poursuivit la générale en s'adressant de rechef à Doktoronko. Tu es dès maintenant aussi sûr de ton affaire que si tu avais déjà l'argent dans ta poche. Et voilà que tu fais le fendant pour nous jeter de la poudre aux yeux. Non, mon cher, à d'autres. Moi, je ne suis pas dupe de toutes ces simagrées. Je lis dans votre jeu. Elisabeth Prokofievna ! S'écria le prince. Retirons-nous, Elisabeth Prokofievna. Il est plus que temps. Nous emmènerons le prince avec nous. » Dit en souriant et du ton le plus calme possible, le prince tchit. Les demoiselles se tenaient à l'écart, presque effrayées. Leur père était positivement épouvanté. Le langage tenu par la générale étonnait tout le monde. Quelques-uns, qui se trouvaient à une certaine distance du reste de la société, souriaient furtivement et causaient à voix basse. Le visage de Lebedev exprimait le dernier degré de l'extase. « Du chaos et des scandales, madame, on en trouve partout !» observa Doktorenko, qui du reste était passablement décontenancé. « Mais pas de pareil ! Pas de pareil à ceux dont vous nous donnez maintenant le spectacle, Batouchka !» répliqua avec une sorte de rage hystérique Elisabeth Prokofievna. « Mais me laisserez-vous enfin ? » dit-elle violemment à son entourage qui essayait de la faire taire. « Non, si, comme vous-même, Eugène Pavlitch venait de nous le raconter, un avocat en plein tribunal a déclaré trouver tout naturel qu'un homme qui est dans la misère escoficie personne, eh bien, c'est que nous touchons à la fin du monde. Je n'avais pas encore entendu parler de cela. À présent, je m'explique tout. Mais ce bègue, est-ce qu'il n'assassinera pas ?» Elle montrait Bourdovsky, qui la considérait avec une stupéfaction extraordinaire. « Je parie qu'il assassinera. Il ne voudra pas de ton argent, c'est possible. Il refusera tes 10 000 roubles, parce que sa conscience ne lui permet pas de les accepter. Mais il ira assassiner nuitamment, et il fera main basse sur le contenu d'une cassette. Il volera en toute tranquillité de conscience. À ses yeux, ce n'est pas un acte malhonnête. C'est l'élan d'un noble désespoir. C'est une négation. C'est le diable c'est quoi. Pouah. Tout est sans dessus-dessous, tout le monde marche les jambes en l'air. Une jeune fille a été élevée dans la maison paternelle. Tout d'un coup, au milieu de la rue, elle saute dans un drojki. « Adieu, maman, j'ai épousé l'autre jour un tel, Karlitch ou Ivanitch. » Ainsi, vous trouvez cela bien? Selon vous, c'est estimable? C'est naturel d'agir de la sorte? La question des femmes. Tenez, dernièrement, continua-t-elle en montrant Kolia, « ce morveux me soutenait que c'était le sens de la question des femmes. Mais, en supposant même que votre mère soit une sotte, vous n'en devez pas moins la traiter avec humanité. Pourquoi tantôt êtes-vous entrée si insolemment? Accorde-nous tous les droits, mais toi, ne te permets pas de souffler mot en notre présence. Prodigue-nous tous les témoignages du respect le plus profond, mais toi, nous te traiterons plus mal que le dernier des laquais. » Dans leur article, ils l'ont calomnié comme des mécréants. Et voilà les hommes qui cherchent la vérité, qui luttent pour le droit. Nous ne sollicitons pas, nous exigeons. Vous n'entendrez de nous aucune parole de remerciement, parce que vous agirez pour la satisfaction de votre propre conscience. Quelle morale ! Mais voyons, si vous déclarez que la générosité du prince ne vous inspirera aucune reconnaissance, il peut vous répondre que lui-même ne se croit tenu à aucune reconnaissance envers Pavlitchev, ce dernier n'ayant agi lui aussi que pour la satisfaction de sa propre conscience. Or, vous n'avez compté que sur votre gratitude du prince à l'endroit de Pavlitchev. Vous ne lui avez pas prêté d'argent, il ne vous en doit pas. Sur quoi donc comptiez-vous, sinon sur la reconnaissance ? Et quand vous faites appel à ce sentiment chez les autres, pourquoi vous-même prétendez-vous vous en affranchir? Ils sont fous. Ils déclarent la société sauvage et inhumaine parce qu'elle méprise une jeune fille séduite. Mais si vous tenez la société pour inhumaine, vous reconnaissez par cela même qu'elle fait souffrir la jeune fille. Comment donc pouvez-vous livrer celle-ci par vos articles au mépris de la société sans voir que vous lui faites une situation pénible? Des fous, des vaniteux. Ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas au Christ. Mais vous êtes tellement rongés de vanité et d'orgueil que vous finirez par vous dévorer les uns les autres. C'est moi qui vous le prédis. Et n'est-ce pas de l'absurdité, cela? N'est-ce pas un monstrueux chaos? Et après cela, cette éhontée ira encore leur demander pardon. Mais y a-t-il beaucoup de gens comme vous? Pourquoi souriez-vous? Parce que je n'ai pas eu honte de me commettre avec vous? Oui, je me suis déshonorée, il n'y a plus rien à faire. Mais toi, ne te moque pas de moi, saligaud. » Cette sortie était dirigée contre Hippolyte. Il a à peine le souffle et il pervertit les autres. Tu as endoctriné cet enfant. » Elle montrait de nouveau Kolia. « Il a la tête tournée par toi. Tu lui enseignes l'athéisme. Tu ne crois pas en Dieu. Et l'on pourrait encore te donner le fouet, monsieur. Mais peste soit de vous. Ainsi, prince Léon Nikolaïevitch, tu iras demain chez eux. Tu iras. » demanda-t-elle pour la seconde fois au prince d'une voix presque haletante. « Oui. Eh bien, après cela, je ne veux plus te connaître. » Elle fit un brusque mouvement pour se retirer, puis tout à coup, elle se retourna. « Et tu iras chez cet athée ?» poursuivit la générale en montrant Hippolyte. « Mais pourquoi as-tu l'air de me narguer ? » vociféra-t-elle furieuse. Et elle s'élança soudain vers le malade, dont le sourire moqueur la mettait hors d'elle-même. De tous les côtés à la fois se firent entendre des exclamations. « Elisabeth Prokofievna ! Elisabeth Prokofievna ! Elisabeth Prokofievna ! Maman, c'est une honte !» cria Aglaé. S'étant vivement approchée d'Hippolyte, la générale lui avait empoigné le bras et le serrait avec force, tandis que ses yeux étincelants de colère étaient fixés sur le visage du jeune homme. « Ne vous inquiétez pas, Aglaé Ivanovna, » répondit-il tranquillement. « Votre maman voit bien qu'on ne peut pas se ruer sur un moribond. Je suis prêt à expliquer pourquoi je riais. Je serais enchanté qu'on me permette. » Un violent accès de toux qui dura une minute entière l'empêcha d'achever sa phrase. « Il est mourant et il pérore toujours !» s'écria Elisabeth Prokofievna. Elle lâcha le bras d'Hippolyte, et ce fut presque avec terreur qu'elle le vit essuyer le sang qui lui était venu aux lèvres. « Pourquoi parles-tu ? Tu devrais aller te coucher !»«
C'est ce que je ferai, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Dès que je serai rentré, je me coucherai tout de suite. Je mourrai dans 15 jours, je le sais. Rodkin lui-même me l'a déclaré la semaine dernière. C'est pourquoi, si vous le permettez, je voudrais vous dire 2 mots d'adieu.
« Mais tu es fou, je pense. C'est absurde. Il faut te soigner. À quoi bon une conversation en ce moment ? « Va te coucher, va !» cria la générale effrayée.
« Quand je me coucherai, ce sera pour ne plus me relever, » répondit en souriant Hippolyte. « Hier déjà, je voulais prendre le lit pour ne plus le quitter jusqu'à la mort. Mais comme mes jambes pouvaient encore me porter, je me suis accordé 2 jours de répit pour venir aujourd'hui ici avec eux. Seulement, je suis fort fatigué.
« Mais assieds-toi ! Assieds-toi ! Pourquoi restes-tu debout ?»
Et Elisabeth Prokofievna s'empressa d'avancer elle-même un siège au malade. « Je vous remercie, » reprit-il doucement. « Asseyez-vous en face de moi. Là, causons. Il faut absolument que nous causions, Elisabeth Prokofievna. Maintenant, je tiens à cela. » poursuivit Hippolyte en souriant de nouveau à la générale. « Songez que je me trouve aujourd'hui pour la dernière fois au grand air et en société, que dans 15 jours, certainement, je ne serai plus de ce monde. Ce sont donc en quelque sorte mes adieux que je ferai aux hommes et à la nature. Je ne suis pas très sentimentale, et pourtant, figurez-vous, je suis bien aise que tout cela ait eu lieu ici à Pavlovsk. Au moins, on a de la verdure sous les yeux. »
« Mais pourquoi parler maintenant ?»
répliqua Elisabeth Prokofievna de plus en plus effrayée.
« Tu es tout fiévreux. Tantôt tu ne cessais de crier, et à présent tu peux à peine respirer, tu t'es essoufflé. »
« Je vais me reposer. Pourquoi ne voulez-vous pas satisfaire mon dernier désir ? Savez-vous, depuis longtemps déjà, je rêvais de faire votre connaissance, Elisabeth Prokofievna. J'avais beaucoup entendu parler de vous, par Kolia. Presque seul, il reste constamment auprès de moi. Vous êtes une femme originale, une femme excentrique, je viens de le voir moi-même. Savez-vous que je vous ai même aimé un peu ?
Seigneur, j'ai été vraiment sur le point de le frapper.
Vous en avez été empêché par Aglaé Ivanovna. Voyons, je ne me trompe pas, c'est bien là votre fille Aglaé Ivanovna. Elle est si belle que tantôt, en entrant ici, je l'ai reconnue tout de suite, quoique je ne l'eusse jamais vue auparavant. Laissez-moi, du moins, contempler la beauté une dernière fois dans ma vie, dit Hippolyte en grimaçant un sourire. Vous êtes ici avec le prince, avec votre mari, avec toute une société. Pourquoi me refusez-vous la satisfaction d'un dernier désir ?
Une chaise !
Cria Elisabeth Prokofievna, mais elle-même en prit une et s'assit en face d'Hippolyte.
« Kolia ! »
ordonna-t-elle. « Tu t'en iras avec lui, tu le reconduiras, et demain je ne manquerai pas moi-même.
Si vous le permettiez, je demanderai au prince une petite tasse de thé. Je n'en puis plus. »
« Savez-vous ce qu'il faut faire, Elisabeth Prokofievna ? Vous vouliez, je crois, emmener le prince prendre le thé chez vous.
Restez ici, passons la soirée ensemble, et certainement le prince nous offrira du thé à tous. »
Pardonnez-moi d'en user avec ce... sans façon. Mais je vous connais, vous êtes bonne.
Le prince est bon aussi.
Nous sommes tous de très bonnes gens, c'en est même comique. Le prince se mit en mouvement. Lébédev sortit en toute hâte, suivi de Varia.
« Et c'est vrai !»
répondit d'un ton tranchant la générale.
« Parle, mais sans trop élever la voix et sans t'exalter. Tu as excité ma pitié. »
« Prince, tu ne mériterais pas que je boive du thé chez toi.
Mais n'importe, je resterai tout de même. Seulement, je ne fais d'excuses à personne. À personne. C'est absurde.
Du reste, si je t'ai tensé, prince, pardonne-moi.
Si tu veux, s'entends.
Du reste, je ne retiens personne, » ajouta-t-elle soudain en s'adressant d'un air courroucé à son mari et à ses filles, comme s'il s'était donné quelque grave tort envers elles.
« Je saurais bien venir toute seule à la maison. »
Mais on ne la laissa pas achever. On s'empressa d'accourir auprès d'elle. Aussitôt, le prince pria tout le monde de rester pour prendre le thé et s'excusa de n'avoir pas encore pensé à faire cette invitation. Le général murmura quelques mots polis et demanda aimablement à Elisabeth Prokofievna si elle n'avait pas froid sur la terrasse. Peu s'en fallut même qu'il ne demandât à Hippolyte s'il était depuis longtemps à l'université, mais il ne le fit pas. Eugène Pavlovitch et le prince Tch devinrent tout à coup extrêmement gais et aimables. Adélaïde et Alexandra paraissaient encore étonnées, mais leur physionomie exprimait maintenant de la satisfaction en même temps que de la surprise. Bref, tous semblaient fort contents que la crise d'Elisabeth Prokofievna fût passée. Seule Aglaé conservait un visage sombre et, silencieuse, se tenait assise à l'écart. Tous les autres visiteurs restèrent aussi. Personne ne voulut se retirer, pas même le général Ivolgin. Mais Lébédev, en passant, dit tout bas à ce dernier quelques mots qui ne durent pas lui être agréables, car il alla immédiatement se fourrer dans un coin. Le prince ne manqua pas d'inviter aussi Bourdovski et ses compagnons à prendre le thé chez lui. Cette proposition les mit assez mal à l'aise. Ils murmurèrent entre leurs dents qu'ils attendraient Hippolyte. Puis tous trois, s'éloignant du reste de la société, allèrent s'asseoir dans un coin de la terrasse. Le thé fut servi incontinent. Lébédev en avait sans doute fait faire pour lui et les siens avant l'arrivée des visiteurs. 11 heures sonnèrent. Chapitre 10. Après avoir trempé ses lèvres dans la tasse que lui avait offerte Viera Lébédev, Hippolyte la déposa sur la table et promena ses yeux autour de lui. Il avait l'air confus, presque interdit.
« Voyez un peu, Elisabeth Prokofievna !»
commença-t-il avec une sorte de précipitation étrange. « Ces tasses de porcelaine, qui ont, paraît-il, une grande valeur, ne sortent jamais du chiffonnier de Lébédev. Sa femme les lui a apportées en dot, et il les tient toujours sous clé. » Voilà pourtant qu'il nous a fait servir du thé dans ses tasses. C'est en votre honneur, bien entendu. Il est si content. » Il voulait encore ajouter quelque chose, mais il resta court.
« Il s'est troublé, je m'y attendais.
dit tout à coup Eugène Pavlovitch à l'oreille du prince. « C'est mauvais signe, qu'en pensez-vous ? Pour sûr, à présent, sous l'influence du dépit, il va coucher de quelque excentricité telle qu'Elisabeth Prokofievna elle-même ne pourra pas y tenir. » Le prince l'interrogea du regard. « Vous n'avez pas peur d'une excentricité ? » poursuivit Eugène Pavlovitch. « Moi non plus, je la désire même, et ce, uniquement pour la punition de notre chère Elisabeth Prokofievna. Je tiens fort à ce qu'elle reçoive une leçon aujourd'hui même, tout de suite, et je ne m'en irai pas avant. Vous paraissez avoir la fièvre. Plus tard, laissez. Oui, je suis souffrant, » répondit avec impatience le prince, qui avait à peine écouté Radomski. Il venait d'entendre prononcer son nom. Hippolyte parlait de lui. « Vous ne le croyez pas ?» disait le malade avec un rire nerveux. « Cela se comprend, mais le prince n'hésitera pas un instant à le croire, et il ne s'en étonnera pas du tout. « Entends-tu, prince ? » fit Elisabeth Prokofievna en se retournant vers lui. « Entends-tu ? » On riait dans ce groupe. Lebedev, accouru précipitamment auprès de la générale, se livrait devant elle à une pantomime pleine d'animation. « Il prétend que ce grimacier, ton propriétaire, a retouché l'article de ce monsieur, l'article qu'on a lu tantôt et où tu es drapé d'une si belle façon. » Le prince considéra Lebedev avec étonnement. « Pourquoi ne dis-tu rien ? » reprit Elisabeth Prokofievna en frappant du pied. « Eh bien, » murmura le prince qui continuait à examiner Lebedev, « je vois qu'il l'a retouché. »« C'est vrai ? » demanda-t-elle vivement à l'employé. Il porta la main à son cœur. « C'est la pure vérité, Excellence !» déclara-t-il sans la moindre hésitation. En entendant cette réponse, faite du ton le plus ferme, la générale faillit sauter en l'air. « On dirait qu'il s'en vante !» s'écria-t-elle. « Je suis bas !» commença à balbutier Lebedev, qui se frappait la poitrine et inclinait profondément la tête. « Mais qu'est-ce que cela me fait que tu sois bas ? Il pense qu'il n'a qu'à dire « je suis bas » pour se tirer d'affaire. Et tu n'es pas honteux, prince ? Je te le demande encore une fois. Tu n'es pas honteux de vivre avec de pareilles fripouilles ? Jamais je ne te pardonnerai. » « Le prince me pardonnera, » dit avec conviction et attendrissement Lebedev. Keller quitta soudain sa place et s'approcha brusquement d'Elisabeth Prokofievna. « C'est seulement par noblesse, madame, » commença-t-il d'une voix sonore. « Et pour ne pas trahir un ami compromis, que tantôt j'ai gardé le silence sur ses retouches, bien qu'il ait offert de nous jeter en bas de l'escalier, comme vous l'avez entendu vous-même. Pour rétablir la vérité, je déclare que j'ai en effet eu recours à ses services et que je les lui ai payés 6 roubles. Toutefois, je ne l'ai nullement prié de corriger mon style. Je me suis adressé à lui comme à un personnage compétent afin d'être renseigné sur les faits dont la plupart m'étaient inconnus. Quant au guêtre, à l'appétit chez le professeur suisse, au chiffre de 50 roubles substitué à celui de 250, pour ce qui est de tous ces détails, en un mot, ils lui appartiennent, et il a reçu pour cela 6 roubles, mais il n'a pas corrigé le style. Je dois faire observer que j'ai corrigé seulement la première partie de l'article, reprit Lebedev avec une impatience fiévreuse, tandis qu'on riait de plus belle autour de lui. Mais au milieu, nous n'avons plus été d'accord, et nous nous sommes querellés au sujet d'une pensée, en sorte que je n'ai pas revu la seconde partie. On ne peut donc pas m'attribuer les nombreuses incorrections qui s'y trouvent. « Voilà de quoi il se préoccupe !» cria Elisabeth Prokofievna. « Permettez-moi de vous demander quand cet article a été retouché, » fit Eugène Pavlovitch en s'adressant à Keller. « Hier matin, » répondit celui-ci. Nous avons eu une entrevue que chacun de nous s'était engagé sur l'honneur à tenir secrète. C'est quand il rampait devant toi et t'assurait de son dévouement. Oh, les gens de rien! je ne veux pas de ton Pouchkine, et que ta fille ne mette pas les pieds chez moi. » Elisabeth Prokofievna allait se lever, lorsque, voyant rire Hippolyte, elle l'interpella tout à coup avec irritation. « Eh bien, mon cher, tu as voulu me rendre ridicule, n'est-ce pas ?»«
À Dieu ne plaise, » répliqua-t-il avec un sourire forcé. « Mais je suis, on ne peut plus, frappé de votre extraordinaire excentricité, Elisabeth Prokofievna. C'est exprès, je l'avoue, que je vous ai signalé la duplicité de Lebedev. Je savais quel effet cela produirait sur vous seul, car le prince pardonnera. Il a certainement pardonné déjà. Peut-être même a-t-il cherché dans son esprit et découvert une excuse à Lebedev. N'est-ce pas vrai, prince ?»
Il haletait à mesure qu'il parlait. Son étrange hésitation ne faisait que croître.
« Eh bien !» dit avec colère la générale, surprise de son ton. « Eh bien !»
« J'ai déjà entendu raconter sur votre compte beaucoup de choses du même genre. Elles m'ont fait un grand plaisir. J'ai appris à vous estimer au plus haut point, » continua Hippolyte. Ses paroles ressemblaient à des antiphrases. On y devinait une intention épigrammatique, mais en même temps, il était excessivement agité, regardait autour de lui d'un air soupçonneux, se troublait et perdait à chaque instant le fil de ses idées. Tout cela, joint à son visage de phtisique et à l'expression délirante qu'offraient ses yeux enflammés, attirait forcément l'attention sur le jeune homme.
Je pourrais m'étonner, quoique du reste, je l'avoue, je ne connaisse pas du tout le monde, que non seulement vous-même soyez resté tantôt dans la société de gens comme mes amis et moi, qui ne sommes nullement de votre bord, mais que vous ayez laissé ces demoiselles entendre jusqu'au bout la lecture d'un article scandaleux, bien que les romans leur aient déjà tout appris. Du reste, je puis me tromper, car je ne sais trop ce que je dis, mais, en tout cas, quelle autre personne que vous pouvait, sur la demande d'un galopin, eh bien oui, d'un galopin, je le reconnais encore, pouvait passer la soirée avec lui et prendre intérêt à tout pour en avoir honte le lendemain. Je conviens du reste que je ne m'exprime pas bien. Je loue tout cela, on ne peut plus, et je l'estime profondément. Quoique la physionomie de son Excellence, votre mari, montre qu'il trouve cela fort déplacé. Il éclata de rire, et soudain fut pris d'un accès de toux qui, pendant 2 minutes, ne lui permit plus de parler.
« Il a perdu la respiration !»
observa froidement Elisabeth Prokofievna en considérant le malade avec plus de curiosité que de compassion.
« Allons, cher garçon, en voilà assez, finissons-en !»
À bout de patience, Ivan Fédorovitch prit brusquement la parole.
« Permettez-moi de vous faire observer à mon tour, monsieur, » commença-t-il d'un ton fâché, « que ma femme est ici chez le prince Léon Nikolaïevitch, notre commun ami et voisin, et qu'en tout cas ce n'est pas à vous, jeune homme, de juger les actions d'Elisabeth Prokofievna, pas plus qu'il ne vous appartient de formuler tout haut, en ma présence, une opinion sur ce que peut exprimer mon visage. Oui, et si ma femme est restée ici ?» poursuivit le général avec une irritation croissante. « C'est plutôt, monsieur, l'étonnement qui en est cause. Tout le monde comprendra que des jeunes gens étranges aient pu attirer un instant l'attention d'une personne curieuse de la vie contemporaine. Moi-même, je suis restée aussi, comme je m'arrête parfois dans la rue, quand je vois quelque chose qu'on peut regarder comme... Voyant son Excellence embarquée dans une comparaison dont elle ne pouvait pas sortir, Eugène Pavlovitch vint à son secours. « Comme une rareté !»«
C'est cela, voilà le mot que je cherchais, justement. Comme une rareté !» reprit avec satisfaction le général. « Mais quoi qu'il en soit, le plus étonnant pour moi, je dirais même le plus affligeant, si la grammaire autorise cette locution, c'est que vous, jeune homme, n'ayez même pas su comprendre qu'Elisabeth Prokofievna est restée avec vous parce que vous êtes malade, si toutefois vous allez mourir en effet.
qu'elle a obéi, pour ainsi dire, à un sentiment de pitié éveillé en elle par vos paroles plaintives, monsieur, et que son nom, ses qualités, sa position sociale la mettent à l'abri de toute souillure, Elisabeth Prokofievna, acheva-t-il pourpre de colère. Si tu veux partir, nous prendrons congé de notre bon prince et... Je vous remercie de la leçon, général, interrompit avec une gravité inattendue Hippolyte, qui considérait Ivan Fédorovitch d'un air pensif. Partons, maman, cela n'en finit plus, dit violemment Aglaé, et elle se leva. Encore 2 minutes, si tu veux bien, cher Ivan Fédorovitch, répondit avec dignité Elisabeth Prokofievna à son mari. Il me semble qu'il a une forte fièvre et qu'il ne fait que délirer. Ses yeux me le prouvent. Dans l'état où il n'y a pas moyen de le laisser retourner à Pétersbourg. Léon Nikolaïevitch, pourrait-il loger chez toi? Cher prince, vous ne vous ennuyez pas? Demanda-t-elle brusquement au prince Tch. Alexandra, ta coiffure est défaite. Viens ici, ma chère. Elle arrangea les cheveux de sa fille, qui n'était nullement en désordre, puis l'embrassa. Elle ne l'avait appelée auprès d'elle que pour lui donner ce baiser. « Je vous croyais susceptible de développement, » reprit Hippolyte, sortant de sa rêverie. « Oui, voilà ce que je voulais dire, » ajouta-t-il tout à coup avec la joie d'un homme qui vient de recouvrer la mémoire d'une chose oubliée. « Tenez, Bourdovski veut sincèrement défendre sa mère, n'est-il pas vrai? Et il se trouve que lui-même la déshonore. Le prince veut venir en aide à Bourdovski, il lui offre dans la sincérité de son âme sa tendre amitié et une grosse somme d'argent. Seul de vous tous, peut-être, il n'éprouve pas d'éloignement pour lui. Eh bien, les voilà vis-à-vis l'un de l'autre comme deux ennemis déclarés. Vous détestez tous Bourdovski, parce que sa manière d'agir à l'égard de sa mère vous choque, vous répugne, n'est-ce pas? Est-ce vrai? Est-ce vrai? Tous vous aimez passionnément la beauté et la distinction des formes. Vous ne tenez qu'à cela, n'est-il pas vrai? Je soupçonnais depuis longtemps que vous ne teniez qu'à cela. Eh bien, sachez que pas un de vous, peut-être, n'a aimé sa mère comme Bourdovski aime la sienne. Vous, prince, je le sais, vous avez secrètement envoyé de l'argent à la mère de Bourdovski par l'entremise de Kanetchka. « Eh bien, je parie, » continua-t-il avec un sourire hystérique, « je parie qu'à présent Bourdovski vous accuse d'indélicatesse, qu'il vous reproche d'avoir manqué de respect à sa mère. Oui, positivement. » De nouveau, le souffle s'arrêta dans son gosier et il se mit à tousser. « Allons, c'est tout? C'est tout maintenant? Tu as tout dit? Eh bien, à présent, va te coucher. Tu as la fièvre. » reprit impatiemment Elisabeth Prokofievna, dont le regard inquiet ne quittait pas le malade. « Ah, Seigneur, mais il parle encore !»« Vous riez, je crois. Pourquoi riez-vous toujours de moi? J'ai remarqué que vous ne cessiez de vous moquer de moi. » fit-il observer d'un ton irrité à Eugène Pavlovitch. Ce dernier riait, en effet. « Je voulais seulement vous demander, monsieur Hippolyte, pardonnez-moi, j'ai oublié votre nom de famille. Monsieur Terentieff, dit le prince. Oui, Terentieff, je vous remercie, prince. On l'a dit tantôt, mais je ne me le rappelais plus. Je voulais vous demander, monsieur Terentieff, si ce que j'ai entendu dire de vous est vrai. Vous seriez d'avis, paraît-il, qu'il vous suffirait de vous mettre à une fenêtre et de haranguer le peuple pendant un quart d'heure pour lui faire partager immédiatement toutes vos idées et le décider à vous suivre. « Il est fort possible que j'aie dit cela, » répondit Hippolyte, qui semblait chercher dans ses souvenirs. « Certainement, je l'ai dit, » poursuivit-il avec une animation soudaine. Et il ajouta, en fixant sur Eugène Pavlovitch, un regard assuré. « Eh bien, qu'en concluez-vous ? » « Absolument rien. Je ne vous demandais cela qu'à titre de renseignement complémentaire. » Eugène Pavlovitch n'en dit pas plus, mais Hippolyte continua à le regarder, attendant impatiemment une nouvelle parole de lui. Eh bien, est-ce que tu as fini ?
Demanda Elisabeth Prokofievna à Radomski.
Fini vite, Batouchka, il est temps qu'il se couche. Ou bien n'as-tu plus rien à dire ?
Elle était très fâchée.
Soit, j'ajouterai encore quelque chose,
reprit en souriant Eugène Pavlovitch.
Selon moi, tout ce qu'ont dit vos amis, monsieur Terentiev, et tout ce que vous venez d'exposer avec un talent si incontestable se ramène à cette thèse. Le triomphe du droit avant tout, indépendamment de tout, à l'exclusion de tout le reste, et peut-être même avant d'avoir recherché en quoi consiste le droit. Il est possible que je me trompe ?
Certainement, vous vous trompez. Je ne vous comprends même pas.
Après ? Des murmures se faisaient entendre aussi dans le coin où se trouvaient Bourdovski et ses compagnons. Le neveu de Lebedev protestait à demi-voix.
« Mais j'ai presque fini, » répondit Eugène Pavlovitch.
« Je voulais seulement faire observer que de ces prémices, on peut facilement déduire le droit de la force. J'entends le droit du poing et du bon plaisir personnel. Du reste, c'est à cette conclusion que très souvent déjà on a abouti dans le monde. Proudhon s'est arrêté au droit de la force. Pendant la guerre d'Amérique, plusieurs des libéraux les plus avancés se sont déclarés partisans des planteurs, pour cette raison que, la race nègre étant inférieure à la race blanche, le droit de la force se trouvait du côté des blancs.
Eh bien ?
C'est-à-dire, sans doute, que vous ne niez pas le droit de la force.
Après ?
Au moins vous êtes conséquent. Je voulais seulement noter que du droit de la force au droit des tigres et des crocodiles, ou même à Danilov et à Gorski, il n'y a pas loin.
Je n'en sais rien. Après ?
Hippolyte écoutait à peine Eugène Pavlovitch.
C'est « eh bien »
C'est « après » Il les proférait machinalement par une vieille habitude de conversation et sans que la curiosité y fût pour rien.
Mais il n'y a pas d'après, c'est tout.
« Du reste, je ne vous en veux pas, » déclara à brûle-pourpoint Hippolyte. Et sans presque se rendre compte de ce qu'il faisait, il tendit en souriant la main à son interlocuteur. Ce geste étonna d'abord Eugène Pavlovitch. Néanmoins, ce fut de l'air le plus sérieux qu'il toucha la main qu'on lui offrait en signe de pardon.
« Je ne puis pas, » dit-il d'un ton trop respectueux pour être sincère,
« ne pas vous remercier de la bienveillance avec laquelle vous m'avez laissé parler, car, comme j'ai eu maintes fois l'occasion de le remarquer, nos libéraux ne permettent jamais à autrui d'avoir son opinion personnelle, et ils répondent tout de suite à leur adversaire par des injures, quand ils ne recourent pas à des arguments plus désagréables encore. »
« Ce que vous dites est parfaitement vrai, » observa le général Ivan Fedorovitch.
Puis, croisant ses mains derrière son dos, il alla, d'un air très ennuyé, reprendre sa place près de l'escalier de la terrasse, où il bâilla de colère.
« Allons, assez, Batouchka !» dit soudain Elisabeth Prokofievna à Eugène Pavlovitch.
« Vous m'assommez !»
Hippolyte se leva tout à coup, soucieux et presque effrayé.
« Il est temps que je vous laisse !»
fit-il en considérant la société avec confusion.
« Je vous ai retenu, je voulais vous dire tout. Je pensais que tous, pour la dernière fois, c'était une fantaisie. »
Évidemment, il avait comme de subits réveils d'animation durant lesquels il sortait de son demi-délire. Alors, rendu pour quelques instants à la pleine conscience de lui-même, le malade parlait, rappelait les idées, qui, depuis longtemps déjà peut-être, le hantait sur son lit de souffrance pendant ses longues et ennuyeuses nuits d'insomnie.
« Allons, adieu » dit-il brusquement. « Vous croyez qu'il m'est facile de vous dire adieu ?»
Sentant combien sa question était gauche, il souriait de colère. Puis, comme vexé de ne pouvoir jamais dire ce qu'il aurait voulu, il reprit à haute voix avec un accent irrité.
« Excellence, j'ai l'honneur de vous inviter à mon enterrement, si toutefois vous daignez l'honorer de votre présence. Je vous adresse à tous, messieurs, la même invitation qu'au général. » De nouveau, il se mit à rire, mais c'était le rire d'un insensé. Elisabeth Prokofievna, inquiète, s'approcha de lui et le saisit par le bras. Il la regarda fixement, sans cesser de rire. Toutefois, son visage ne tarda pas à reprendre une expression sérieuse. « Savez-vous que je suis venu ici pour voir des arbres ?»«
Ceux que voici. »
Il montrait les arbres du parc.
« Ce n'est pas ridicule, hein ?»«
Dites, il n'y a rien de ridicule !» demanda-t-il avec insistance à Elisabeth Prokofievna. Et tout à coup, il devint songeur. Un instant après, il releva la tête et se mit à chercher des yeux quelqu'un dans la foule. Il cherchait Eugène Pavlovitch, qui se trouvait non loin de lui, à droite, à la même place qu'auparavant. Mais Hippolyte l'avait oublié, et il promenait ses regards sur toute la société.
« Ah, vous n'êtes pas parti !»
dit-il, quand il eut enfin aperçu Radomski. « Tantôt, vous ne cessiez de rire, parce que j'ai pensé à me mettre à la fenêtre pour haranguer le peuple pendant un quart d'heure. Mais vous savez que je n'ai pas 18 ans. Couché sur ce lit ou debout devant cette fenêtre, j'ai passé tant de temps à réfléchir sur toutes sortes de choses que... Un mort n'a pas d'âge, vous savez. Je me disais encore cela la semaine passée en m'éveillant la nuit. Savez-vous de quoi vous avez le plus peur? Vous craignez par-dessus tout notre sincérité, quoique vous nous méprisiez. C'est aussi une idée qui m'est venue cette nuit-là. Vous croyez que j'avais l'intention de me moquer de vous tout à l'heure, Elisabeth Prokofievna? Non, toute pensée de moquerie était loin de mon esprit. Je ne voulais que faire votre éloge. Kolia m'a dit que le prince vous appelait un enfant. C'est bien. Mais voyons, j'avais encore quelque chose à dire. Il couvrit son visage de ses mains et recueillit ses idées. Voici. Tantôt, quand vous avez voulu vous en aller, j'ai pensé tout d'un coup, ces gens qui sont là, je ne les verrai plus jamais, plus jamais. Et c'est aussi la dernière fois que je vois des arbres. Désormais, je n'aurai plus sous les yeux qu'un mur de briques rouges, le mur de la maison Meillet, vis-à-vis de ma fenêtre. Eh bien, dis-leur tout cela, essaye de le leur dire. Voilà une belle jeune fille. Tu es un mort, présente-toi comme telle. Dis-leur qu'un cadavre peut tout dire, et que la princesse Marie Alexievna ne grondera pas. Vous ne riez pas ? Ajouta-t-il en promenant un regard inquiet autour de lui. Mais, vous savez, sur mon oreiller, il m'est venu bien des idées. Vous savez, j'ai acquis la conviction que la nature est très moqueuse. Tout à l'heure, vous disiez que j'étais un athée. Mais vous savez que cette nature... Pourquoi riez-vous encore? Vous êtes bien dur. Fit-il soudain en considérant ses auditeurs avec une expression de reproche attristée. Je n'ai pas perverti Kolia, acheva-t-il d'un ton tout autre, sérieux et convaincu, comme si un souvenir lui revenait à l'esprit. Personne, personne ne se moque de toi ici. Calme-toi, dit Elisabeth Prokofievna, douloureusement émue. Demain, un nouveau docteur viendra te voir. L'autre s'est trompé. Mais assieds-toi, ne reste pas sur tes jambes. Tu as le délire. Ah, que faire maintenant de lui ? S'écria-t-elle tout angoissée, et elle le fit asseoir dans un fauteuil. Une petite larme brillait sur la joue de la générale. À cette vue, Hippolyte resta comme frappé de stupeur. Puis il allongea timidement le bras vers le visage d'Elisabeth Prokofievna, toucha avec le doigt cette petite larme et sourit d'un sourire enfantin. « Je... vous... » commença-t-il joyeusement. « Vous ne savez pas comme je vous... Il me parlait toujours de vous avec un tel enthousiasme. Tenez, lui, Kolia, j'aime son enthousiasme. Je ne le pervertissais pas. Seulement, lui aussi, je le quitterai. Je voulais les quitter tous, tous. Mais parmi eux, il n'y en avait aucun, aucun. Je voulais être un homme d'action. J'avais le droit. Oh, que de choses je voulais. Maintenant, je ne veux plus rien. Je renonce à toute volonté. Je me suis juré de ne plus rien vouloir. Qu'il cherche sans moi la vérité. Oui, la nature est moqueuse. Pourquoi ? continua-t-il avec une chaleur soudaine. « Pourquoi crée-t-elle les meilleurs êtres en vue de se moquer d'eux ensuite ? Le seul être qui, sur la terre, ait été reconnu parfait, la nature, en le montrant aux hommes, lui a donné pour mission de dire des choses qui ont fait couler des torrents de sang à noyer l'humanité tout entière, si ce sang avait été versé en une seule fois. Oh, il vaut mieux que je meure. Moi aussi, je dirais quelque affreux mensonge. La nature arrangerait ainsi les choses. Je n'ai dépravé personne. Je voulais vivre pour le bonheur de tous les hommes, pour la recherche et la vulgarisation de la vérité. Je regardais par la fenêtre le mur de la maison Meillet, et je me disais que je n'aurais qu'à parler pendant un quart d'heure pour convaincre tout le monde. Tout le monde. Or, voici qu'une fois dans ma vie, je suis entré en rapport avec vous, sinon avec la foule. Eh bien, qu'en est-il résulté ? Rien. Il en est résulté que vous me méprisez. Donc, je suis un imbécile. Donc, je suis inutile. Donc, il est temps que je disparaisse. Et je n'aurais réussi à laisser aucun souvenir. Pas un son, pas une trace, pas une action. Je n'ai pas propagé une seule idée. Ne vous moquez pas de l'imbécile. Oubliez-le. Oubliez-le à jamais. Je vous en prie. N'ayez pas la cruauté de vous souvenir de lui. Savez-vous que, si je n'étais pas phtisique, je me tuerais. Quoiqu'il parût avoir envie de parler encore longtemps, il se tut, se laissa tomber dans son fauteuil, et, couvrant son visage de ses mains, se mit à pleurer comme un petit enfant. « Eh bien, maintenant, que voulez-vous qu'on fasse de lui ?» s'écria Elisabeth Prokofievna, qui s'élança vers le malade, lui prit la tête et la serra avec force contre sa poitrine, tandis qu'il sanglotait convulsivement. « Allons, 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 ne pleure donc pas. Allons, assez, tu es un bon enfant. Dieu te pardonnera à cause de ton ignorance. Allons, assez, sois homme. Et puis, tout à l'heure, tu seras honteux d'avoir pleuré. » « Là-bas, dit Hippolyte en s'efforçant de relever un peu sa tête, j'ai un frère et des sœurs, des enfants en bas âge, de pauvres petits innocents. Elle les pervertira. Vous êtes une sainte, vous êtes vous-même un enfant. Sauvez-les, arrachez-les à cette... Elle, c'est une honte. Oh, venez leur en aide, secourez-les. Dieu vous rendra cela au centuple, pour l'amour de Dieu, pour l'amour du Christ. Parlez donc enfin, Ivan Fedorovitch. Que faire maintenant ? Cria d'une voix irritée Elisabeth Prokofievna. Je vous en prie, rompez votre majestueux silence. Si vous ne prenez pas une décision, sachez que moi-même je passerai la nuit ici. Votre autocratie m'a assez tyrannisé. » La générale questionnait avec exaltation, avec colère, et attendait une réponse immédiate. Mais, dans des cas semblables, les assistants, fussent-ils même nombreux, se contentent d'observer en silence. Ils ne veulent rien prendre sur eux, se réservant d'exprimer plus tard leurs idées. Parmi les personnes réunies chez le prince, il y en avait qui, comme Barbara Ardalionovna, par exemple, seraient volontiers restées là jusqu'au lendemain matin sans proférer un seul mot. Assise un peu à l'écart, la sœur de Gania n'avait pas ouvert la bouche depuis le commencement de la soirée, mais elle écoutait tout, avec une attention extraordinaire. Peut-être avait-elle ses raisons pour cela. « Mon avis, ma chère, opina le général, c'est qu'à présent une garde malade vaudrait mieux ici que votre agitation. Peut-être aurait-on besoin aussi pour la nuit d'un homme sobre sur qui on puisse compter. En tout cas, il faut consulter le prince et laisser immédiatement le malade en repos. Demain, on pourra encore s'occuper de lui. Il va être minuit. Nous partons. Viendra-t-il avec nous ou restera-t-il chez vous ? Demanda d'un ton fâché Doktorenko au prince. « Si vous voulez, vous pouvez rester auprès de lui, » répondit Mushkin. « Ce n'est pas la place qui manque ici. » Soudain, à l'étonnement de tout le monde, M. Keller s'avança vivement vers le général. « Excellence, » fit-il avec élan, « si l'on a besoin pour la nuit d'un homme sûr, je suis prêt à me sacrifier pour mon ami. C'est une telle âme. » Depuis longtemps, je le considère comme un grand homme, Excellence. Mon article s'est ressenti de mon défaut de culture, mais lui, quand il critique, il sème des perles, Excellence. » Ivan Fedorovitch se détourna du boxeur avec un geste de désespoir. « S'il reste, j'en serais enchanté. Sans doute il lui serait difficile de retourner à Pétersbourg, » dit le prince en réponse aux véhémentes interrogations d'Elisabeth Prokofievna. « Mais tu dors, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas, Batouchka, eh bien je le ramènerai chez moi. Seigneur, mais lui-même peut à peine se tenir debout. Voyons, tu es malade ?» N'ayant pas trouvé le prince au lit de mort, Elisabeth Prokofievna l'avait cru, sur sa bonne mine, beaucoup mieux portant qu'il ne l'était. Mais sa récente maladie, les pénibles souvenirs qui s'y rattachaient, le tracas de la soirée, l'incident du fils de Pavlitchev, et maintenant celui d'Hippolyte, tout cela avait irrité l'impressionnabilité du prince au point de le mettre dans une sorte d'état fiévreux. D'ailleurs, un nouveau souci, une nouvelle crainte même, pourrait-on dire, se lisait en ce moment dans ses yeux. Il considérait Hippolyte d'un air inquiet, comme s'il s'attendait encore à quelque chose de sa part. Tout à coup, Hippolyte se leva. Son visage, affreusement pâle et défait, était celui d'un homme accablé de honte. Ce sentiment se manifestait surtout dans le regard haineux et craintif qu'il fixait sur la société, comme aussi dans le sourire égaré qui crispait ses lèvres frémissantes. Il baissa soudain les yeux, et avec le même sourire, alla d'un pas chancelant rejoindre Bourdovski et Doktorenko, qui se trouvaient à l'entrée de la terrasse. Il s'était décidé à partir avec eux. « Eh bien, voilà ce que je craignais !» s'écria le prince. « Cela devait arriver !» Hippolyte se retourna brusquement vers lui, en proie à une rage forcenée qui faisait trembler tous les muscles de son visage. « Ah, c'est ce que vous craignez. Cela devait arriver, selon vous. Eh bien, sachez que si je hais quelqu'un ici » cria-t-il d'une voix rauque et sifflante qui sortait de sa bouche avec des flots de salive. « Je vous hais tous, tous. Mais vous, vous, âme jésuitique, petite âme de mélasse, idiot, millionnaire bienfaisant, je vous déteste plus que tous et que tout le monde. Il y a longtemps que je vous ai compris et que je me suis mis à vous haïr. Du jour où j'ai entendu parler de vous, je vous ai exécré de toutes les forces de mon âme. C'est vous qui venez de machiner tout cela. C'est vous qui avez provoqué en moi cet accès. Vous avez amené un moribond à se déshonorer. C'est vous, vous, vous qui êtes cause de ma lâche pusillanimité. Je vous tuerais si je restais en vie. Je n'ai pas besoin de vos bienfaits. Je n'en accepterai de personne, entendez-vous? De personne. Je ne veux rien. J'avais le délire. N'ayez pas l'audace de triompher. Je vous maudis tous une fois pour toutes. » L'haleine lui manquant, il dut s'arrêter. « Il a eu honte de ses larmes, » dit tout bas Lebedev. « Elisabeth Prokofievna, cela devait arriver. Oh, quel homme que le prince! Il avait lu dans son âme. » Mais la générale ne daigna pas regarder l'employé. Le buste fièrement redressé, la tête rejetée en arrière, elle considérait ses petites gens avec une curiosité méprisante. Quand Hippolyte eut fini, Ivan Fedorovitch haussa les épaules. Sa femme le toisa du haut en bas d'un air courroucé, comme pour lui demander compte de son mouvement, puis elle se tourna vers le prince. « Merci, prince, merci, excentrique ami de notre maison, pour l'agréable soirée que vous nous avez procurée à tous. Maintenant, j'en suis sûr, vous êtes tout joyeux, parce qu'il vous a été donné de nous associer, nous aussi, à vos extravagances. Assez, cher ami de notre maison, merci de nous avoir enfin fourni l'occasion de vous bien connaître. » D'une main tremblante de colère, elle se mit à arranger sa mantille en attendant le départ de ceux-là. En ce moment, arriva le drojki de louage que, sur l'ordre de Doktorenko, le jeune fils de Lebedev était allé chercher un quart d'heure auparavant. Le général crut devoir dire son petit mot après sa femme. « Le fait est, prince, que moi-même je ne m'attendais pas, après tout, après toutes les relations amicales. Et enfin, Elisabeth Prokofievna. Allons, comment est-ce possible ? S'écria Adélaïde, qui s'approcha vivement du prince et lui tendit la main. Il sourit distraitement à la jeune fille. Soudain, il eut comme la sensation d'une brûlure en entendant quelques mots qu'une voix saccadée murmurait à son oreille. « Si vous ne mettez pas, à l'instant même, ces vilaines gens à la porte, toute ma vie, je vous haïrai !» lui disait tout bas Aglaé. Elle semblait hors d'elle-même, mais elle se détourna avant que le prince eût pu l'examiner. Du reste, il n'y avait plus personne à mettre à la porte. Sur ces entrefaites, on était parvenu tant bien que mal à faire monter Hippolyte en voiture, et le drojki était parti. « Eh bien, est-ce que cela va encore durer longtemps, Ivan Fedorovitch ? Qu'en pensez-vous ? Ne serais-je pas bientôt délivré de ces mauvais gamins ?»« Mais moi, ma chère, moi, naturellement, je suis prêt, et le prince ?» Ivan Fedorovitch tendit cependant la main à Mushkin, mais sans attendre que celui-ci la serrât, il courut rejoindre Elisabeth Prokofievna, qui se retirait en donnant tous les signes d'une violente agitation. Adélaïde, son fiancé et Alexandra firent à leur hôte des adieux sincèrement affectueux. Eugène Pavlovitch se trouvait avec eux, et seul il était gai. « Ce que j'avais prévu est arrivé. Seulement, c'est dommage que vous aussi, mon pauvre prince, ayez eu à en souffrir, » murmura-t-il avec le sourire le plus aimable. Aglaé sortit sans prendre congé. Mais cette soirée devait se terminer par une dernière aventure. Une autre rencontre des plus inattendues était réservée à Elisabeth Prokofievna. Au moment où la générale descendait l'escalier conduisant au chemin, qui faisait le tour du parc, un élégant équipage, une calèche attelée de deux chevaux blancs, passa au galop devant la villa du prince. Deux dames en grande toilette était assise dans la voiture. Mais, 10 pas plus loin, celle-ci s'arrêta tout à coup, et une des dames se retourna vivement, comme si elle venait d'apercevoir par hasard une figure de connaissance. « Eugène Pavlovitch, c'est toi ?» cria soudain une voix fraîche et mélodieuse, dont le son fit frissonner le prince, et peut-être un autre encore. « Eh bien, je suis enchantée de t'avoir enfin trouvé. J'ai envoyé 2 express chez toi à Pétersbourg. On t'a cherché toute la journée. » Eugène Pavlovitch s'arrêta sur l'escalier. Ces mots avaient fait sur lui l'effet d'un coup de foudre. Elisabeth Prokofievna resta immobile aussi, quoiqu'elle n'éprouvât point l'épouvante et la stupeur qui clouaient Radomski sur place. La fierté, le froid mépris avec lesquels tantôt elle avait considéré les petites gens, se montrèrent de nouveau dans ses yeux lorsqu'elle dévisagea l'insolente. Un instant après, elle regarda fixement Eugène Pavlovitch. « Il y a du nouveau !» poursuivit la voix sonore. « Ne t'inquiète pas des lettres de change souscrites à Koupferov. Rogojine les lui a rachetées pour 30 000 roubles. J'ai obtenu cela de lui. Tu peux encore être tranquille pendant 3 mois. » « Avec Biscoup et toute cette fripouille, nous nous arrangerons, ce sont des connaissances à nous. »« Ainsi tout va bien, comme tu vois. Sois gai. À demain. » La calèche se remit en marche et ne tarda pas à disparaître. « C'est une folle !» cria enfin Eugène Pavlovitch, qui, rouge d'indignation, promenait autour de lui des regards ahuris. « Je ne sais pas du tout ce qu'elle a voulu dire. Quelle lettre de change ! Qui est-elle ? » Elisabeth Prokofievna le regarda encore pendant 2 secondes, puis brusquement, elle prit le chemin de sa villa et les autres la suivirent. 1 minute après, le prince vit revenir vers lui Eugène Pavlovitch en proie à une agitation extraordinaire. « Prince, franchement, vous ne savez pas ce que cela signifie ?»« Je n'en sais rien, » répondit le prince, qui lui-même paraissait bouleversé. « Non ? Non, ni moi non plus, » reprit avec un rire soudain Eugène Pavlovitch. « Je vous en donne ma parole d'honneur. Je ne comprends rien à ces lettres de change. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous semblez sur le point de défaillir. Oh non, non, je vous assure, non.